Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des Songes. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte du yoga et des liens avec notre vision moderne de la psyché à travers les écrits de Jung. Jung s'est particulièrement intéressé à la symbolique des chakras à travers une série de 4 conférences données en 1932 et regroupées sous le titre « Psychologie du yoga de la Kundalini ». On trouve également d'autres références dans le recueil « Psychologie et orientalisme ». Mais avant cela, résumons ce que nous avons vu jusqu'à maintenant concernant le yoga. Cette philosophie, issue de l'hindouisme, propose que la conscience ne s'identifie plus au moi, image de nous-mêmes illusoire et fragmentée, mais que la conscience s'identifie au soi, image de nous-mêmes unifiée et totale. Pour y parvenir, le yoga vise à l'arrêt des modifications du mental afin de permettre à la conscience de s'isoler du monde des sens et des désirs et ainsi se concentrer sur sa réalité profonde. D'une manière plus imagée, la psyché est représentée sous la forme d'un corps subtil qui se superpose au corps physique, parcouru de canaux d'énergie et ponctué de centres d'énergie que sont les chakras. Il y en a 7 principaux que voici. Pour plus de détails et de précisions, je vous invite à réécouter les émissions précédentes. Alors, en partant du sommet de la tête, nous trouvons le Sahasrara ou chakra coronaire. En descendant, on trouve l'Ajna ou chakra du troisième œil. Ensuite, le Vishuddha ou chakra de la gorge. Puis l'Anahata ou chakra du cœur. Puis le Manipura ou chakra du plexus solaire. Ensuite, le Svadhisthana ou chakra sacré, situé au niveau des organes sexuels. Et enfin, notre descente nous mène au Muladhara, ou chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx. Il correspond à nos racines physiques, mais aussi et surtout à nos racines psychologiques. À l'opposé du Sahasrara, qui est au sommet de la tête, le Manipura, qui se trouve à la base, représente l'état de conscience le plus bas qui correspond au tréfonds de notre inconscient occidental. La notion d'inconscient est totalement absente de la vision indienne de la psyché. Il n'y a que la conscience qui s'identifie à des états plus ou moins illusoires, à des états plus ou moins unifiés. Et le but du yoga est que la conscience ne s'identifie plus au moi illusoire, mais qu'elle s'identifie au soi personnel, puis au soi absolu. C'est ainsi qu'à la base du Muladhara, le chakra racine, on trouve la Kundalini, énergie unifiée, sommeillant au fond de nous et que l'on peut identifier comme le soi individuel. Le but étant dans un premier temps de parvenir à réveiller cette belle endormie, la conscience s'identifie alors au soi individuel. Puis dans un second temps, il faut que la Kundalini, cette énergie unifiée, remonte à travers les différents chakras jusqu'au sommet de la tête, au niveau du Sahasrara, le chakra coronaire. Ainsi, la conscience s'identifie désormais au soi absolu. C'est le véritable état de samadhi. Jung a donc été le premier en Occident à comprendre que les chakras n'étaient pas simplement des centres d'énergie, mais également des centres psychiques qui correspondent à un certain état de conscience. Et il a décrit, à travers son long exposé de 4 conférences, l'évolution de l'état de conscience de la psyché à travers les différents chakras. Cependant, Jung entrevoit cette évolution comme une ascension unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'il se place d'emblée à la base du corps subtil, au niveau du chakra Muladhara, le chakra racine, pour ensuite remonter jusqu'au chakra Sahasrara, au sommet de la tête. Il conçoit ce chemin comme s'élançant du plus profond de la psyché. Tout clinicien reconnaîtra que ce n'est pas le point de départ de l'expérience analytique. On ne commence jamais une analyse du plus profond de l'inconscient, car c'est justement le but de l'introspection et de la régression. Malgré sa grande expérience de clinicien, il est étonnant que Jung n'ait pas perçu l'incohérence de la dynamique qu'il a décrite. Ce sont d'ailleurs les symboles qu'il a rencontrés dans les rêves de ses patients qui l'ont induit en erreur. Je m'explique. Jung s'est rendu compte que nombre de rêves de ses patients, en début d'analyse, étaient marqués par des symboles tels que des lianes, des filets, des enchevêtrements de racines et de fils, des toiles d'araignées, des barreaux de prison. Bref, tout un tas de symboles qui renvoient à l'enfermement, à la rétention, à l'emprise, et surtout, toute l'énergie qui transparaît dans les rêves pour s'en dépatouiller, s'en extraire, s'en libérer. Pour Jung, cette symbolique renvoie immanquablement à notre quotidien dans lequel nous sommes enfermés et contraints par tout un ensemble d'obligations. C'est donc, selon Jung, une représentation de notre état de conscience en lien avec le monde extérieur, la réalité physique quotidienne. Et comme cette symbolique de liane et de racine revenait le plus souvent, il a donc lié cet état psychique au chakra racine, le Mooladhara, celui qui est à la base du corps. Et il a fait de ce chakra le siège du conscient, qui gère en permanence nos relations avec le monde extérieur. Erreur. Ce que Jung n'a pas entrevu, c'est que le siège de la conscience, c'est toujours le Sahasrara, le chakra coronaire au sommet de la tête. En général, ce chakra est décrit comme un lotus à 1000 pétales représentant la conscience la plus haute. C'est vrai lorsque l'on a atteint l'état de samadhi, c'est-à-dire lorsque notre conscience est parvenue à s'identifier au soi absolu. Tant que la conscience s'identifie au moins illusoire, ce chakra au sommet de la tête, qui est le siège de la conscience, n'apparaît pas comme un lotus à 1000 pétales, mais comme un enchevêtrement de liens qui nous retient, contraint et nous empêche d'avancer. En réalité, toute la dynamique du processus d'identification au soi, prônée par le yoga, nous invite dans un premier temps à tomber de notre piédestal égotique et à descendre au plus profond de nous-mêmes pour nous confronter à nos états psychiques les plus obscurs. Mais après avoir affronté nos démons, se trouve justement le trésor, la Kundalini, qui sommeille au plus profond de notre grotte intérieure et que l'on va pouvoir leur faire remonter selon le processus ascensionnel décrit par Jung. Pour illustrer mon propos, je vous propose de découvrir un texte mythique de l'Inde, le Ramayana ou le parcours de Rama, qui, tel un rêve, va nous permettre d'illustrer à quel point ce processus de descente et remontée en lien avec la symbolique des chakras est toujours présente. Rama est le prince héritier du royaume de Kosala, au nord de l'Inde. Au moment d'accéder au trône, un événement l'oblige à y renoncer et même à s'exiler. Ainsi commence la longue marche de Rama, accompagné de son épouse Sita et de son frère. Chaque étape de son périple représente en réalité un chakra, et donc la découverte d'un nouvel état de conscience. En premier, le Sahasrara, le chakra coronaire, correspond évidemment au royaume de Kosala, et au fait que Rama aurait dû accéder à la plus haute des dignités, mais il en a été empêché. Ce qui vient confirmer mes propos précédents. Tant que la conscience s'identifie au moi, on ne peut accéder à la plus haute des dignités, qui est le soi. Pour cela, il va falloir entamer une régression jusqu'au plus profond de son âme. C'est ce que va entreprendre Rama. Sa première halte le mène à l'ashram d'un vieil anachorète, grand devin et visionnaire. Nous sommes ici au niveau du chakra du troisième œil. L'étape suivante l'oblige à affronter un groupe de démons qu'il finit par vaincre, notamment en coupant le nez et les oreilles à l'un d'entre eux. Cela concerne davantage le chakra Vishuddha. Pour se venger, le roi des démons enlève la femme de Rama. Cette rupture brutale du lien amoureux nous amène au chakra du cœur, l'anahata. Ensuite, Rama va réunir le plus de forces possible pour créer une armée prête à combattre l'armée des démons qui se trouve sur l'île de Lanka, à l'extrême sud de l'Inde. Le rapport à la puissance physique et le charisme ou encore leadership renvoient au Manipura, le chakra du plexus solaire. Ensuite, pour envahir l'île de Lanka, Rama fait surgir de l'eau un pont afin de franchir le détroit qui sépare l'Inde du Sri Lanka actuel. Ce rapport à l'eau et le surgissement d'un pont à ce niveau renvoie au chakra sexuel, le Svadhisthana. Et enfin, une fois sur l'île, s'engage une guerre totale contre les démons. La guerre est telle que Rama trouve la mort, mais il est ressuscité et parvient à vaincre le roi des démons et délivrer sa femme. Telle est décrite l'expérience de la descente au plus profond du Mooladhara, le chakra racine, où règnent nos démons les plus effrayants. Mais pour réveiller la belle endormie, la Kundalini, pas d'autre choix que de les affronter. Ceci est représenté par une mort symbolique, car une telle expérience transfigure toute personne. Durant cette première partie de son exil, Rama a quitté le nord de l'Inde, là où il a bien failli être roi, ce qui correspond au Sahasrara, le chakra coronaire, lorsque la conscience s'identifie au moi. Pour ensuite descendre à l'extrême sud de l'Inde pour terrasser le roi des démons, correspondant au Mooladhara, le chakra racine. Il finit par faire le chemin inverse pour rentrer dans son royaume et finalement conquérir, dans la paix et la non-violence, le trône, et ainsi s'élever à la plus haute des dignités. Correspondant au Sahasrara, toujours le chakra au sommet de la tête, mais cette fois-ci, lorsque la conscience s'est enfin identifiée au soi. C'est l'état de Samadhi. À la fin de leur règne terrestre, Rama et Sita s'envolent tous deux vers le royaume céleste pour retrouver leur nature divine, Vishnu et sa parèdre. Et une nouvelle fois, dans cette épopée bien plus riche et détaillée, c'est l'exil et le mouvement de descente et de régression qui tient la grande majorité de l'intrigue et du récit, car c'est la partie la plus dure et la plus longue du chemin vers l'identification de la conscience au soi. La suite, le mouvement ascensionnel, n'est pas forcément simple, mais en tout cas, il se fait dans un tout autre état d'esprit, beaucoup plus apaisé. Après un tel exposé, se pose alors la question de la différence culturelle. Jung, à plusieurs reprises et à des époques différentes, a soutenu que le yoga était une science de l'âme dont la richesse et la finesse poussaient à ce que l'on s'y intéresse et qu'on l'étudie. Cependant, il s'opposait à l'idée qu'on importe et applique chez nous, occidentaux, cette science de l'âme, car, nos différences culturelles étant trop importantes, cela créerait davantage de problèmes qu'il n'en résoudrait pour un esprit européen structuré par le christianisme. Aujourd'hui, à voir la pratique grandissante du yoga en Europe et plus globalement en Occident, il est clair que ces prescriptions n'ont pas été entendues. D'ailleurs, cette dynamique paraît logique. Je pense en effet que Jung a de nouveau professé une erreur. S'il y a des différences culturelles indéniables entre l'Inde et l'Europe, cela ne veut pas dire pour autant que la structure de la psyché des Indiens soit différente de celle des Européens. Selon moi, la structure de la psyché est universelle. Cependant, la symbolique qui exprime cette structure est différente car elle s'appuie sur l'environnement dans lequel évoluent les individus. Ainsi, après avoir marché dans les pas de Rama, je vous propose donc de revenir en Europe, de reprendre nos symboles traditionnels chrétiens et de suivre cette fois-ci l'illustre Dante Alighieri dans son ascension vers le paradis. Le premier chant de la Divine Comédie suffit à étayer mon propos. Dante, égaré dans une forêt obscure, s'efforce pour s'en sortir de gravir une colline lumineuse. Une panthère, un lion, une louve s'opposent tour à tour à son passage et lui font rebrousser chemin. Paraît Virgile, qui le persuade, pour échapper à ses périls, de visiter les royaumes éternels. Il offre de le conduire lui-même dans l'enfer et dans le purgatoire, et Béatrice lui montrera le paradis. On retrouve dès le début du récit, comme Jung l'avait déjà remarqué, le symbole de la forêt obscure, cet enchevêtrement de racines qui symbolise le conscient en lien avec les contraintes de son environnement physique et qui tente sans cesse de s'en extraire. Contrairement à ce qu'affirmait Jung, cet état ne correspond pas au Mooladhara, le chakra racine, très fond de l'inconscient, mais plutôt au Sahasrara, le chakra coronaire, lorsque la conscience s'identifie au moi illusoire. Mais tout comme le divin Rama, Dante a le désir de s'extraire de cet état pour accéder à une plus haute dignité, mais il est empêché lui aussi. Et Dante, à son tour, est contraint à une descente en enfer, au plus profond de lui-même, pour se confronter à ses démons. Il en ressortira transfiguré, si bien que le sommet lumineux de la colline, qui était son objectif initial, se révélera une étape vers une dignité encore plus haute. L'accès au royaume des cieux, symbole du soi absolu. La démonstration est ici raccourcie, mais je vous invite à revisiter les enfers avec Dante pour retrouver, à chaque étape de son introspection, la symbolique des chakras correspondants dans l'ordre. Ces arguments et ces exemples culturels vous ont peut-être convaincu du bien fondé de la symbolique des chakras et de la dynamique énergétique sous-jacente. On peut quand même raisonnablement se demander quel est l'intérêt d'une telle approche d'un point de vue psychothérapeutique, et surtout en lien avec l'analyse des rêves. Premièrement, comme nous l'avons vu dans les émissions précédentes, il faut garder à l'esprit que le yoga est une science de l'âme en lien permanent avec le corps. À travers la symbolique des chakras, nous sommes donc en possession d'une autre grille de lecture de la relation psyché-soma. Elle est certes différente de la théorie des pulsions décrite par Freud et que nous avons abordée dans les émissions sur le thème rêve et psychosomatique. Cependant, ces deux approches décrivent la même dynamique car elle est universelle. Seules les représentations, les symboles, qui eux sont culturels, changent. L'apport du yoga et de la symbolique des chakras dans les rêves se révèle un outil de diagnostic et de suivi précis pour celles et ceux qui ont fait le choix d'une approche médicale, homéopathique et énergétique pour leur santé. Et il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent dans cette démarche. Ensuite, et pour conclure, il faut comprendre que l'introspection et la régression, qui sont au centre de l'expérience analytique, ne sont pas des dynamiques linéaires et constantes. On peut se représenter cette expérience tel un mineur qui, à chaque séance, descend dans la mine pour en extraire un minerai avec une certaine valeur. C'est donc davantage une succession de descentes et de remontées qui permet, au final, de découvrir petit à petit les strates les plus profondes de l'inconscient. Il est du devoir de l'analyste, tel Virgile vis-à-vis de Dante, d'accompagner l'analysant dans cette quête des profondeurs pour qu'il ne s'y perde pas et qu'il ne se fasse pas mal. Mais il est aussi du devoir de l'analyste que l'analysant en ressorte un jour. Les rêves sont alors un témoin privilégié de la progression du sujet dans les méandres de l'inconscient au cours de son analyse. Les rêves sont donc un outil précieux pour l'analyste afin de repérer où en est l'analysant et ainsi scander son cheminement au cours de l'analyse. Lors de la prochaine émission, je vous proposerai l'analyse d'une série de rêves pour illustrer davantage ces notions, encore nouvelles pour beaucoup. À la prochaine fois, et d'ici là, faites de beaux rêves!